Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Avec la crise des réfugiés, celle de la dette grecque, avec le Brexit, la question est devenue un véritable serpent de mer. Comment refonder l'Europe ? Depuis le 7 mai, quelque chose a peut-être changé. La France a élu un président qui a fait de l'Europe précisément sa priorité. Du coup, encouragée par la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, la Commission européenne a dévoilé hier ses propositions pour accélérer l'intégration de la zone euro. La refondation pourrait partir de ce groupe, 19 pays qui représenteront près de 4/5 de l'économie européenne après le Brexit. Nous ne pouvons pas rater cette occasion historique, a martelé le commissaire aux affaires économiques et financières, le français Pierre Moscovici. Parmi les suggestions de l'exécutif européen présentées hier, donc, la création d'une capacité budgétaire de la zone euro, d'une sorte de super ministre des finances de cette même zone, la mise en place, après 2019, après les élections européennes, d'un actif sans risque européen et peut-être d'un fonds monétaire européen. Des propositions concrètes donc, mais qui vont devoir être acceptées par tous et notamment par le couple franco-allemand qui a lui aussi lancé un chantier en la matière. Alors zone euro, enfin plus d'intégration, est-ce la bonne solution ? C'est notre débat de ce soir, bienvenue. Pour en parler, deux invités, l'un est à mes côtés dans ce studio, Nicolas Leroux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du think tank Eurocité, du site critique Non-Fiction, vous êtes par ailleurs chercheur associé au Centre d'études européennes de Sciences Po, et vous êtes l'auteur de La double démocratie, une Europe politique pour la croissance, qui est paru aux éditions du Seuil, que vous avez coécrit avec l'économiste Michel Aglietta. Avec nous en direct par téléphone pour débattre avec vous, Nicolas Leroux, David Kaila, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'Angers, membre du collectif des économistes atterrés, co-auteur avec Coralie Delhomme du livre « La fin de l'Union européenne » qui est paru aux éditions Michelon. Je vais peut-être commencer avec vous, Nicolas Kaila. Est-ce que vous avez effectivement, Saïla peut-être ?
Leroux.
David Saïla,
Oui, d'accord.
Ou Kaila, excusez-moi, je vais vérifier Kaila, comment bien prononcer. Voilà, Kaila. David Kaila, je vais peut-être commencer avec vous sur ce contexte. Est-ce que vous partagez l'analyse de Pierre Moscovici ? Est-ce qu'on est effectivement à un moment historique pour pouvoir refonder l'Europe ?
Je pense qu'on n'est pas encore complètement à un moment historique pour refonder l'Europe, parce que l'Allemagne est encore en campagne électorale. Donc de toute façon, les engagements allemands ne vont pas être tout à fait décisifs avant que les élections aient lieu. Mais bon, du point de vue de Pierre Moscovici, à la fois le Brexit, l'élection de Trump, et le fait que voilà, l'Union européenne, en tout cas Angela Merkel, apparaît comme beaucoup plus allante sur le fait de s'engager un peu davantage dans la construction européenne, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Est-ce que vous partagez cette analyse, Nicolas Leroux ?
Oui, à court terme, effectivement, le calendrier électoral allemand va jouer, mais je crois qu'il y a...
Donc des élections à la rentrée, après voilà, les grandes vacances en septembre.
À l'automne, voilà. Mais je crois quand même qu'il y a une forme d'alignement, peu à peu, des planètes en Europe, avec, bien sûr, en France, un président qui a fait de l'Europe sa marque de fabrique, c'est vraiment identitaire dans son projet, avec un gouvernement très marqué Europe. C'est une première. Et puis en Allemagne, bien sûr, avec bien sûr des divergences au sein même de la majorité allemande, mais notamment entre Merkel et Schäuble, mais aussi à la Commission européenne avec Jean-Claude Juncker qui veut être un peu plus proactif que par le passé.
Donc effectivement, peut-être une occasion historique de faire bouger les choses. Alors on va peut-être partir de la première des mesures hein, des propositions qui ont été énumérées hier, la création d'une capacité budgétaire de la zone euro. Alors évidemment, le terme est moins fort que le mot budget, et c'est sans doute fait exprès, destiné à ne pas brusquer les conservateurs allemands qui sont peu ouverts à un accroissement de la solidarité dans l'immédiat. David Kaila, qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure, cette capacité budgétaire ? Est-ce que ça vous semble être une bonne piste à explorer ?
Alors justement, le problème c'est qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. Bon, en fait, pour revenir sur ce que disait Nicolas Leroux tout à l'heure, je pense quand même qu'il y a quand même, même malgré l'alignement des planètes, il y a des divergences fondamentales entre les différents pays européens, globalement entre les pays d'Europe du Sud et puis les pays d'Europe du Nord, dont la France et l'Allemagne, et que justement, cette absence de volonté d'aller vers plus de solidarité de l'Allemagne, elle n'est pas encore cassée. Et donc, la Commission essaie de trouver des formules de compromis, mais qui, pour l'instant, quand on ne connaît pas le contenu, on ne sait pas ce que c'est. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une capacité budgétaire ? Bon, on va dégager un peu d'argent, sans doute, c'est un peu ce dont il s'agit, mais si on n'augmente pas globalement le budget, L'argent va être très limité. Donc,
à quelles conditions cette capacité budgétaire pourrait être intéressante selon vous ?
Condition qu'il y ait de l'argent réellement, c'est-à-dire que effectivement qu'il y ait un budget réel avec une possibilité d'engager suffisamment de ressources pour aller aider les pays qui sont en manque de croissance. Ça veut dire que les Allemands, il faut qu'ils payent pour les pays d'Europe du Sud, et ça, c'est pas du tout gagné pour l'instant. Hein.
Nicolas Leroux, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis assez d'accord, mais j'irai plus loin. Effectivement, il y a une question déjà du volume de cette capacité budgétaire. Effectivement, si elle est sous-dotée, ça n'aura pas d'effet macroéconomique, mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça, et plus fondamentalement, justement, ça ne marchera pas si c'est justement qu'une capacité budgétaire, et non un véritable budget. C'est-à-dire que si on se limite qu'à un instrument de stabilisation macroéconomique, et non un budget européen comme, ou de la zone euro, comme fondement d'une puissance publique européenne, comme fondement d'une Europe politique, en fait, véritablement.
Et alors, qu'est-ce que ce serait le fondement d'une politique européenne en la matière ?
D'une Europe politique, et pas simplement de politique de coordination ou de politique macroéconomique de stabilisation. Tout l'enjeu, c'est, à mon sens, hein, et c'est ce qu'on développe dans le livre avec Michel Aglietta, c'est de sortir d'une lecture trop économiciste de la crise européenne et de ses solutions. Dire au fond, il y a des problèmes fonctionnels hein, de conception de la zone euro, de l'union économique et monétaire. Et donc, du coup, il faudrait trouver des réglages, des ajustements institutionnels et macroéconomiques. Non, à notre sens, le point de départ de la crise, il est démocratique. C'est un problème du politique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans l'analyse et le discours sur la crise européenne. On est dans de la capacité, on est dans des instruments. Non. Le problème, le point de départ, c'est qu'il y a un problème de démocratie. Et donc, il faut régler ce problème de démocratie.
David Kaila.
Pardon, non, mais on est aussi dans des affrontements. C'est-à-dire que les intérêts sont divergents. Donc, la solution de Nicolas Leroux, c'est d'organiser une forme d'intérêt général européen. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un lieu d'affrontement entre des intérêts contradictoires. Donc, il ne s'agit pas juste... Mais je suis d'accord avec lui sur le fond. C'est-à-dire qu'effectivement, une capacité budgétaire, ça ne sert à rien si on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut en faire. Mais moi, je ne vois pas l'émergence d'une démocratie à court terme. Quoi. Et d'ailleurs, en réalité, aucune de ces propositions, malheureusement, irait dans ce sens. Hein.
Alors justement, Nicolas Leroux, il y a une deuxième proposition qui a été faite hier, la création d'un super ministre des Finances. Alors le terme n'est pas dit comme ça. L'idée, ce serait de fusionner à terme, on n'a pas de délai, le rôle du commissaire européen aux affaires économiques, qui est aujourd'hui Pierre Moscovici, avec celui du président de l'Eurogroupe. J'imagine que là aussi, vous y voyez une patte trop économiciste, comme vous nous disiez tout à l'heure.
C'est ça, en fait, on confond l'ordre chronologique des choses. Les réformes institutionnelles, et cette question-là de ministre des finances publiques de la zone euro, c'est intéressant. C'est pareil pour la question du Parlement de la zone euro. Ce sont des choses importantes, mais ça vient après. Ça vient après, en fait, un acte fondateur de l'Europe politique. Cet acte fondateur, il y a deux solutions. Soit on fait un saut de souveraineté, on crée une forme d'États-Unis d'Europe. Bon, je n'y crois pas trop. Ou soit on fait un saut budgétaire, c'est-à-dire un saut de puissance publique. On institue l'Europe, non pas comme une Europe seulement de la règle, et ça marche pas ça, mais une Europe puissance publique capable de produire des biens publics communs européens. Ou sinon, la troisième solution, c'est le Brexit, que je ne souhaite pas.
David Kaila.
Justement, parce que c'est ça toute l'ambiguïté du super ministre des Finances, c'est qu'en fait, dans le cadre des règles actuelles, ce super ministre des Finances, il va en fait avoir pour unique objectif de faire appliquer les règles de manière encore plus dure. Parce que c'est ça que veut l'Allemagne aussi. Hein. L'Allemagne, elle est peut-être prête à faire des concessions, et encore, on n'est pas sûr. Hein, on le voit avec le cas de la Grèce, où jamais les concessions arrivent au niveau de la négociation sur la dette. Mais elle veut surtout davantage d'équilibre des comptes. Et donc, le problème de ce super ministre des Finances, c'est qu'il n'a pas l'air de disposer d'un vrai budget, il a l'air surtout d'être le père fouettard de l'équilibre. Et donc, si c'est ça, je pense que ça n'est pas une bonne chose, hein, simplement.
J'imagine que vous partagez cette crainte, Nicolas Leroux.
Je suis assez d'accord. Après, pour revenir sur l'analyse de David, qui est là, sur cette idée d'intérêt divergent, bien sûr. Il y a des intérêts divergents nationaux entre la France et l'Allemagne. Et tout l'enjeu, c'est de tenir à la fois une négociation, donc la France, la responsabilité de la France, c'est d'engager cette négociation, de remettre à plat un grand compromis historique européen avec l'Allemagne, en jouant un rapport de force, mais aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, l'Europe, c'est pas qu'une question de négociation géopolitique, c'est aussi comment on construit quelque chose de commun. Et il y a un socle commun, il y a une idée européenne qui est aussi partagée par les Allemands. Et les Allemands ont intérêt à la fois à l'Europe et ils sont aussi européens dans leur conception.
Alors peut-être que cette réforme de l'Europe, elle va aussi venir après, puisque là il est question de renforcer l'intégration de l'eurozone. On pourrait se dire, bon bah il y a cette piste-là qui est lancée et d'autres qui vont venir après. Ça pourrait aussi être l'ordre des choses, Nicolas Laurent.
Alors ça, c'est la solution en fait qui a cours depuis le début de la construction européenne. C'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas. On commence petit, peu à peu on fait des pas, ça choque pas trop les opinions et on arrive à avancer. Sauf qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de petits pas, on est arrivé assez loin, mais sans vraiment en fait poser les choses dès le départ. Et donc ça crée une situation de tension, de très grande tension, parce qu'on est au milieu du gué et on n'a pas une solution satisfaisante. On n'arrive pas forcément à faire le grand pas qui nous amène devant, et on est tenté par un pas en arrière, mais on a peur de, des conséquences et des coûts. Je crois que ces réglages, petit à petit, c'est on achète du temps, en fait, à court terme, un temps qui coûte de plus en plus cher, et qui ne prévient pas le...
Et qui a aussi un coût politique, hein, c'est pas qu'un coût financier.
Et qui ne prévient pas cette lame de fond, cette vague de fond de politisation négative, on pourrait dire, avec la montée des populismes, avec le sentiment anti-européen, avec... une première sortie de l'Union européenne, avec une Grèce qui est encore empêtrée dans des programmes d'aide à rallonge. Donc, ma crainte, c'est justement d'être dans une logique de petits pas, et on verra au fond plus tard. On remet à plus tard en fait les grandes questions.
David Kaila, sur cette question de la politique des petits pas.
Oui, eh ben, il a tout à fait raison, Nicolas Laurent. C'est vraiment comme ça que s'est construit l'Europe, l'Union européenne en tout cas. Mais le souci, c'est que de plus on avance, et plus on repousse les problèmes les plus fondamentaux, et que on se retrouve devant des situations des impasses en fait. Hein, parce qu'à un moment donné, les problèmes, il faut bien les résoudre. Et en fait, on essaie plutôt de les cacher plutôt que de les résoudre. Ben, par exemple, cette histoire de ministre des Finances ou de renforcer l'Eurogroupe, il va quand même poser problème. Parce que l'Union européenne, c'est pas que l'Eurogroupe. Il y a aussi des pays qui sont pas dans l'euro. Donc, si on faisait fusionner, par exemple, le ministre d'Affaires économiques qui s'occupe de l'économie de toute l'Union européenne avec
le commissaire des affaires économiques, ouais.
Voilà, le commissaire avec le président de l'Eurogroupe, on est sur deux périmètres différents. Donc voilà, comment est-ce que les autres pays réagissent? Il n'y a pas que la France et l'Allemagne aussi qui sont concernés par les questions européennes. Il y a, on voit aussi un peu la révolte des petits qui se posent parfois la question de savoir quel est leur rôle et qui sont parfois maltraités. Hein. Donc ces tensions politiques, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'elles ne vont pas être résolues par des petits mécanismes qui peut-être qui sont plus ou moins mis en avant aujourd'hui.
Et alors, est-ce que la solidarité que permettrait la mise en place de ces actifs sans risque européen, c'est la troisième des grandes propositions hier par la Commission européenne, ça pourrait répondre un petit peu à cette critique?
Alors, la question des actifs sans risque, alors ça, là aussi, c'est encore un mot bizarre.
Pour ne pas dire eurobond, hein, dont on a beaucoup parlé avec la crise grecque notamment.
Voilà, il y a eu la question d'une solidarité d'une partie des dettes publiques, en fait. Créer ce qu'on appelle les eurobonds, ou en français les euro-obligations, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir une forme d'endettement commun aux différents pays. Mais ça, l'Allemagne n'en veut pas. L'Allemagne ne veut pas parce qu'elle a bien l'impression que la dette commune, ça va être sa dette à elle. Et on le voit d'ailleurs dans l'affaire de la Grèce, les questions sont absolument pas résolues, l'Allemagne refuse absolument, contre l'avis de tout le monde, et en particulier du FMI, de restructurer la dette grecque. Donc cette histoire d'actifs sans risque, en fait, c'est juste l'idée d'émettre peut-être des obligations publiques pour essayer d'avoir un budget, mais qui serait quand même garanti plus ou moins, parce que c'est sans risque, donc il doit être garanti par les budgets des États. Donc je suis pas certain que quand on voudra aborder la question du contenu, l'Allemagne, et pas que l'Allemagne, hein, d'autres pays du Nord accepteront quelque part quelque chose qui est un pot commun, sans garantie sur les politiques économiques menées dans tous les pays. Parce que le problème, il est que la fédéralisation du budget implique un contrôle bien plus important des dépenses des différents pays. Et là, ça pose un problème démocratique aussi. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas du tout sorti des grandes questions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à résoudre, à partir de mécanismes, et je rejoins Nicolas Laurent, des petits mécanismes économiques, les grandes questions politiques qui sont la question démocratique, la question de la souveraineté, la question du qui décide, et est-ce que les règles doivent être implacables ou peuvent être négociables.
Alors, est-ce que les grandes questions sont un peu plus abordées dans l'initiative franco-allemande, dans la foulée de sa nomination à l'économie? Bruno Le Maire est allé en Allemagne pour rencontrer Wolfgang Schäuble. Ils ont fixé une feuille de route qui arrivera en juillet avec des grands thèmes. Alors, mariée à la convergence fiscale et l'impôt des sociétés, la coordination des politiques économiques, des initiatives, nous dit-on, en matière d'investissement, et puis une accélération du chantier institutionnel. Est-ce que ça, c'est plus intéressant, Nicolas Leron, que ce que propose la Commission ?
Ça va être plus intéressant, mais il manque encore, la vision d'ensemble, le cadre d'ensemble. C'est différents chantiers institutionnels, là aussi de fiscalité ou de coordination. Mais le vrai problème, c'est quelle est la vision d'ensemble, quel est le chemin qu'on fait ensemble, nous Européens. Le problème, c'est qu'il y a effectivement qu'il faut faire un pas en avant, un grand pas en avant. Il faut renégocier entre la France et l'Allemagne, mais on va s'acharper sur deux solutions. L'Allemagne, c'est plus de règles. Plus de coordination, donc plus de contraintes, de contrôle des pouvoirs budgétaires des parlements nationaux. Mais ça, un certain niveau, à un certain point, ça évite les démocraties nationales. Quand un parlement national n'a plus véritablement de pouvoir budgétaire, il n'y a plus de démocratie nationale. Donc ça, c'est pas possible.
Et on voit bien que politiquement, en Europe, ça passe pas partout.
Je pense que la Grèce est à bout de ce point de vue-là. À un moment donné, ça sert à quoi de voter à des élections en Grèce si, au fond, le législateur grec n'a plus les moyens de faire des choix, en fait, en termes budgétaires. Et puis, du côté, il y a la France qui dit, en gros, plus de puissance publique, plus de mutualisation. Il y a un principe que la France doit faire sauter, c'est le principe d'interdiction des transferts. À un moment donné, et c'est pas simplement de la solidarité, c'est pas simplement de dire l'Allemagne doit payer.
Concrètement, ça veut dire quoi, l'interdiction des transferts?
Il y a déjà, en fait, des transferts en Europe, ça s'appelle le marché intérieur. Ces transferts, en fait, simplement, c'est des flux économiques, mais pas que économiques, de ressources humaines, de capitaux, de technologies, qui sont mus par une dynamique plutôt centripète, d'agrégation en un centre, disons le bloc germanique, selon une logique d'intérêt privé ou de concurrence économique. Bon, c'est un fait, l'existence même de l'Europe et du marché intérieur bénéficie à des entreprises et à certains territoires et à certains pays. Bien, mais il faut une contre-union de transferts. Ça, c'est un principe politique, c'est pas simplement économique, c'est un principe politique et démocratique qu'il faut marteler.
Sur cette question, David Kaila ?
Non, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que nous, dans notre livre avec Coralie Delhomme, on a dit un peu ça. C'est-à-dire que le problème du marché unique aujourd'hui, c'est qu'il concentre les richesses dans certaines régions et que il appauvrit d'autres régions, les régions périphériques comme la Grèce et l'Europe du Sud. Alors, évidemment, pour résoudre ça, il faut effectivement, en théorie, je suis d'accord, ce pacte ferait une Europe politique. Encore faut-il que les gens soient d'accord sur les mesures à prendre. Donc là évidemment, ce qu'on nous dit, c'est, en gros, la France et l'Allemagne vont se mettre d'accord pour, par exemple, harmoniser la fiscalité. Ah, ça c'est très bien pour la France et l'Allemagne, parce que aujourd'hui on a un certain nombre de pays qui font du dumping fiscal et qui attirent à eux les entreprises et un certain nombre d'actifs dans le marché unique.
Mais ça ne résout que partiellement le problème, c'est ce que vous dites.
Alors, ça résout pas. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que si on impose à l'Irlande de s'harmoniser sur les taux d'impôt sur les sociétés d'un pays comme la France et l'Allemagne, l'Irlande est un pays périphérique, elle va voir son économie s'effondrer. Donc c'est facile de se mettre d'accord sur le dos d'un pays tiers, mais ce pays tiers, il va pas être d'accord. Donc là se posent d'autres problèmes politiques. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la France et l'Allemagne, c'est pas toute l'Europe.
Donc si je comprends bien, finalement, la manière dont j'avais intitulé l'émission Eurozone, enfin vers plus d'intégration, c'est pas du tout la question qui se pose pour vous, Nicolas Leron.
Je dirais pas enfin, c'est il faut plus d'intégration. La question, c'est comment. Pour la France, hein, c'est comment parler à l'Allemagne. Parce que tout ceci, en fait, vous voyez, on partage le même constat avec David Kaila. Après, on n'a pas forcément les mêmes solutions. Réponses. Mais parce que moi, je pense que l'Europe est importante dès que la monnaie unique, c'est un acquis, il ne faut pas le perdre. Mais la question, c'est comment on parle à l'Allemagne, comment on la convainc. Si on dit, vous savez, nos amis allemands, vos excédents, ce sont nos déficits, votre surcompétitivité, c'est notre sous-compétitivité, bon, il faut un petit peu trop. Ça ne marchera pas, ça ne sera pas audible. On aura beau avoir raison sur un plan économique, ça ne sera pas audible politiquement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut placer cette question de la réforme de la zone euro sur le plan politique et démocratique. Il faut brandir l'argument démocratique. Et ça, je pense que les Allemands peuvent peut-être l'entendre.
Ah ben on verra. Rendez-vous dans les prochains mois. Merci à vous deux, Nicolas Leron. Je rappelle le titre de votre livre, La double démocratie, une Europe politique pour la croissance au seuil, coécrit avec Michel Aglietta. Merci à vous, David Kaila. Je rappelle également votre ouvrage, La fin de l'Union européenne, que vous avez co-signé avec Coralie Delhomme chez Michelon. Merci à Sarah Magnan, à Valentin Vanner. On se retrouve lundi pour un nouveau débat.